l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Pour commencer cette cinquième saison, nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est, où des mouvements massifs contre la vie chère ont émergé au cours de l'été, illustrant, d'une certaine manière, les craintes de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo sur Citizen TV.
Some of us have pounded warning.
Certains d'entre nous ont tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Dans toute l'Afrique, nous sommes assis sur un baril de poudre.
Because there's virtually no...
Il n'y a pratiquement aucun pays où la jeunesse n'est pas en colère.
Are not angry. They are...
Ils sont sans emploi, sans autonomie et ne voient rien d'autre que le désespoir. Et si aucune attention adéquate n'est accordée aux besoins de la jeunesse, ça va mal tourner pour nous tous.
To be very ugly for all of us.
Tout commence au Kenya. Nous sommes au mois de mai dernier. Le président William Ruto dévoile le nouveau projet de finances pour l'année à venir. Il comporte notamment une vaste entreprise de création et d'augmentation des taxes et des impôts dans le but annoncé de réduire la dette du pays. Technologie, alimentaire, matériel médical, carburant, la plupart des biens de consommation et de loisirs sont touchés. La loi autoriserait en outre l'autorité fiscale, la Kenya Revenue Authority, à avoir accès aux comptes en banque des Kenyans et des Kenyanes sans décision de justice, et mettrait en place la taxation des terres ancestrales, qui sont pourtant considérées par la Constitution comme la propriété absolue des personnes qui y vivent. La loi arrive dans un contexte où les services publics coulent, malgré l'augmentation récurrente des taxes, et que le gouvernement s'est montré incapable de gérer les inondations de mars et avril qui ont causé la mort de 260 personnes. Andrew, diplômé en anthropologie à Nairobi, témoigne à Martha Perotti pour Afrique 21.
Prenons par exemple l'éducation ou le secteur de la santé. Il y a des choses qui n'ont même pas été réglées par le gouvernement actuel et ils veulent que nous payions plus d'impôts. Mais nous avons déjà payé des impôts et ils n'ont pas réglé les problèmes. C'est comme si quelqu'un vous demandait plus d'argent alors qu'il ne pouvait pas rendre compte de l'argent que vous lui avez déjà donné. Comment pouvez-vous lui donner encore plus d'argent ?
Aussitôt, des pétitions en ligne se multiplient et le hashtag #RejectFinanceBill2024 apparaît. Les numéros de téléphone de nombreux députés sont dévoilés afin qu'ils soient harcelés par leurs électeurs et votent contre le projet de finances. Très vite, un appel à manifester le 18 juin est lancé. Des milliers de personnes se réunissent devant le Parlement. La police réprime violemment et plus de 200 personnes sont arrêtées, tandis que William Ruto annonce qu'il maintiendra son projet.
Je suis honnêtement fatigué de ces décisions qui sont faites sans nous et qui ne vont pas dans notre sens.
Ce n'est pas que nous ne voulons pas payer les taxes. À chaque fois, les taxes augmentent, chaque année et dans tous les domaines. Et nous ne voyons pas où va l'argent.
Pour étouffer la mobilisation, l'accès à Internet est limité et une centaine d'opposants connus sont arrêtés, dont 7 blogueurs militants. La vigueur de la colère est palpable sur les réseaux et cette première journée a démontré toute la détermination de la jeunesse à ne plus laisser le champ libre au président. Le lendemain, le Parlement amende le projet de loi et annule notamment la mise en place de la TVA sur le pain et le transport de la canne à sucre, ainsi que la clause qui permettait à l'autorité fiscale d'avoir accès aux comptes en banque. Pour compenser, les députés votent des économies sur le budget d'éducation et de l'aménagement du territoire. Le reste du projet de finances est en passe d'être adopté. Cela ne suffit pas. Les protestataires demandent désormais la démission du président. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que William Ruto fait face à une telle contestation. Durant la campagne qui l'a fait accéder au pouvoir en 2022, le futur président se fait passer pour un allié des classes défavorisées, qu'il nomme les débrouillardes. Son histoire personnelle démontre pourtant le contraire. Il est issu du groupe de jeunesse du parti au pouvoir dans les années 90. Ainsi, il a fait sa richesse et sa puissance en soutenant la dictature et le pillage du pays. Son discours séduit pourtant une partie de la jeunesse pauvre qui se retourne aujourd'hui contre lui. Oscar Seina, dans les manifestations, confie ainsi à Associated Press « Je souffre de ses mensonges. Maintenant, je regrette d'avoir voté pour lui. »
Ndogo, kila siku tunabebwa ndogo. Polisi wanakula hongo, mbunge wetu pia ni muongo. Pale kwa bunge tunaona mambo, wananchi tunabebwa ndongo.
En août 2022, Ruto accède donc au pouvoir après une élection très serrée, dont le résultat n'est pas reconnu par son adversaire. Depuis, il mène une politique néolibérale classique, en s'alignant sur les demandes du FMI et de la Banque mondiale, avec qui le pays avait passé un accord en 2021. Privatisation des entreprises, endettement du pays auprès du FMI, tandis que le coût de la vie augmente, les mesures néolibérales affaiblissent les services publics, amenuisent l'assurance maladie et étranglent le pays. Ruto accompagne cette politique par une militarisation de la police et une répression accrue dans les quartiers populaires. Reprenant des chiffres de l'Independent Police Oversight Authority, l'Ukombozi Review relate que le nombre de cas de torture et de violence a triplé entre 2019 et 2023, atteignant 482 dénonciations sous les 14 premiers mois de règne de William Ruto. En mars 2023, le président fait face à une première fronde de 10 jours, encouragée par son opposant principal. En jeu, une inflation à plus de 9% et l'inégale répartition des richesses. Quelques mois plus tard, à l'été 2023, la contestation reprend, cristallisée déjà à l'époque par une loi de finances qui instaurait plusieurs nouvelles taxes. Sortant de l'ombre, le FMI révélait son rôle dans le processus en félicitant le président et en annonçant un prêt d'$1 milliard au pays. Les rassemblements sont systématiquement interdits et attaqués par la police. Des jeunes, pour la plupart, mobilisés massivement dans les quartiers périphériques de Nairobi, l'affrontent avec des lance-pierres et en incendiant des barricades. La police réplique à balles réelles et à coups de grenades explosives. Liliane Aniango, habitante du bidonville de Matare à Nairobi, confie alors à Africa News.
La vie est devenue très difficile. Les prix ont augmenté et les conditions de vie sont désormais insoutenables. Nos enfants ne vont pas à l'école, nous n'avons pas les moyens de nous nourrir. Nous n'avons pas d'options. Nous ne savons pas ce que ça donnera avec le gouvernement actuel.
En ce mois de juin 2024, la population kényane est donc échaudée. Dans un pays où 35% des gens ont entre 15 et 35 ans et où 67% d'entre eux sont au chômage, la jeunesse se sent profondément dupée par le président. Sur 284 promesses, il en a réalisé 13 et en a brisé 22 après près de 2 ans au pouvoir. Constatant la corruption, le détournement de fonds publics et l'opulence étalée par l'élite, elle laisse exploser sa rage. Le 20 juin, le Parlement commence pour 10 jours à voter le projet de finances alors que tout le pays est désormais en proie aux manifestations quotidiennes. L'après-midi, Rex Kanikemasai est assassiné par la police au beau milieu d'une marche calme et pacifique. Le mouvement lance immédiatement l'initiative 7 jours de rage, proposition d'action sur 7 jours, le tout résumé sur un visuel qui circule partout. Le vendredi 21, se mobiliser avec les personnes qui sortent de la prière. Le samedi 22, tous les bars et les boîtes de nuit coupent la musique à une heure donnée pour laisser place aux chants et aux slogans. Le dimanche 23, empêcher les prises de parole pro-gouvernement lors des messes dans les églises. Et ainsi de suite jusqu'au mot d'ordre « Total Shutdown Kenya ». Dans la foulée, vu le niveau de répression, le mouvement du personnel médical, qui mène une grève sectorielle depuis 85 jours, annonce se joindre au mouvement et former dès à présent des équipes de street medic pour venir en aide aux victimes de la police. Le mouvement d'opposition lance le mot d'ordre Occupy Parliament et se prépare à la journée de grève générale prévue pour le 25 juin. Ce jour-là, surnommé Super Tuesday, la foule converge vers le quartier de la capitale qui abrite les bâtiments institutionnels. Des premières heures éclatent. La foule encercle les officiers de police en chantant « Nous sommes pacifiques » et les force à fuir. Débordant les cordons des forces de l'ordre, un grand nombre de personnes parvient finalement à atteindre le Parlement et à s'y introduire. Les parlementaires présents à l'intérieur, occupés à voter le projet de loi fiscale en troisième lecture, sont assiégés et contraints de s'échapper par un tunnel souterrain. Le réfectoire est vidé et les protestataires se régalent du repas préparé pour les députés en prenant leur place dans l'hémicycle. La masse en or, symbole de l'autorité parlementaire, est emportée pour, selon les mots de l'activiste et écrivain Njuki Gisetwa, installer un parlement du peuple dans une zone libérée, loin de l'Assemblée nationale discréditée et déshonorée. Finalement, le bâtiment est en partie incendié. Dépassé, la police se met à tirer à balles réelles et pourchasse comme elle le peut les manifestantes et les manifestants. Plus loin, c'est la Cour suprême qui est envahie et le bureau de son président, soutien de William Ruto, est lui aussi incendié, ainsi que l'hôtel de ville. Dans le reste du pays, les transports sont paralysés, les grandes entreprises restent portes closes par peur du pillage et les rues sont également le théâtre de marches massives. Parfois, les bureaux du parti au pouvoir sont occupés ou dévastés, comme à Eldoret, la ville natale de Ruto, où le tribunal départemental et les bureaux de police disparaissent dans les flammes. Juki Gisasoa, universitaire, écrivain et rédacteur en chef de l'Ukombozi Review, poursuit.
Le bruit et la fureur de la jeunesse se sont répandus à travers les villes et villages du Kenya. Les jeunes avaient appelé à 7 jours de rage du 21 au 27 juin. Le 25 fut le point culminant de cette rage, dénommé Super Tuesday, avec l'invasion du Parlement. Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de la résistance au Kenya. La génération Z mène une résistance pour le peuple qui a été appauvri par ce régime à bout de souffle. Elle fait comprendre aux politiciens à quel point leur pouvoir est fragile. Ou comme les jeunes le disent dans une chanson de hip-hop, « Inacom, Inago, ça va, ça vient ».
Le lendemain, le président annonce le retrait du projet de loi de finances dont le vote n'a pas pu s'achever. La victoire est néanmoins célébrée dans la douleur. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par la police en cette semaine du 25 juin. 53, selon le groupe de travail pour réformer la police. Le soir même de la prise du Parlement, certains réseaux sociaux sont coupés et le ministère de l'Intérieur annonce que l'armée est déployée dans la capitale. Les militaires envahissent les rues et viennent chercher des gens à leur domicile pour les arrêter. On relève également des enlèvements, des passages à tabac arbitraires et des détentions illégales en marge des rassemblements. La Commission kényane des droits de l'homme alerte en outre qu'à Githrae, dans la banlieue nord de Nairobi, un massacre a été commis par la police qui a pris en chasse et assassiné une trentaine de personnes qui rentraient chez elles après la manif. John, un jeune entrepreneur présent dans la marche du 25 juin, raconte à Martha Perotti pour Afrique 21.
Au début de la journée, nous étions plutôt en train de danser. Pour être honnête, les gens étaient juste comme un collectif. Nous tous qui nous rassemblons indépendamment de la race, de la classe, de l'emploi. Avec la femme à qui j'achète habituellement mon déjeuner en ville, on se tenait côte à côte. Et nous protestions contre le même projet de loi. Parce que nous comprenons tous les deux comment il nous affecte. Mais personne ne s'attendait aux représailles du gouvernement. Personne ne s'attendait à ce qu'il tire à balles réelles. Personne ne s'attendait à ce qu'il installe des tireurs d'élite sur les toits et qu'il commence à assassiner des gens. Il y a cette photo vraiment troublante d'un homme qui se fait tirer dessus en pleine tête, comme si le tireur avait visé juste entre ses deux yeux. Et l'homme a été tué, et il y a un drapeau kényan dans sa main.
L'intensité de la répression a surpris, mais une solidarité s'est mise en place très vite, selon Zachary Patterson, qui raconte sur Rope comment les groupes de jeunes se sont organisés en quelques jours pour se protéger mutuellement des arrestations ou prendre soin les uns et les unes des autres au milieu des gaz. Il décrit même des employés de la Cour suprême distribuer des bouteilles d'eau sur le chemin du Parlement occupé ou les avocats et avocates qui proposent leur aide gratuite en ligne pour soutenir les personnes arrêtées. Dès les premiers assassinats, un fonds de solidarité est spontanément mis en place pour aider les familles à assurer les dépenses médicales et funéraires. Au 28 juin, il atteint 186 000 dollars et commence à être distribué aux familles, chaque donation étant publiquement visible sur Twitter. Angela Chukwundzira, activiste à Nairobi, estime sur Rope que ce fonds représente à la fois la solidarité inhérente au peuple kényan depuis la colonisation et la capacité d'auto-organisation du peuple face aux échecs du gouvernement et à la collapse du système de santé publique. Elle ajoute que l'un des aspects positifs de ce mouvement est l'irruption de la jeunesse et de ses formes culturelles dans la protestation sociale. Sur les réseaux et dans les médias alternatifs, on se félicite de cette nouvelle génération qui met fin à une période de mécontentement et d'apathie politique en rappelant la peur encore vive chez les aînés qui ont connu la dictature. De nombreux articles témoignent de l'humour, de la joie et des danses apportées dans la rue par la jeunesse et du déferlement d'images sur les réseaux qui, malgré le danger, offrent à voir l'élan renouvelé, le désir de l'engagement politique. De voir aussi comment les plus jeunes en viennent à réaliser que les institutions néolibérales, y compris sous couvert de justice et de droits humains, n'existent que pour servir les intérêts du capital, en résonance avec ce qu'il se passe en Palestine, au Soudan ou au Congo. Cette génération qui chante « We are not afraid », « Nous n'avons plus peur », retourne en effet dans la rue dès le lendemain. Le hashtag « Occupy Everywhere » est lancé. Il s'agit désormais de transformer le pays. Au micro de la BBC, des manifestantes confient.
Who's leading you?
Qui est-ce qui vous mène? Qui est le leader de la génération Z?
I don't think there's a specific leader. We are doing...
Je ne crois pas qu'il y ait un leader spécifique. Nous sommes effrayés de faire cela. Nous sommes fatigués, mais nous le faisons quand même. Et laissez-moi vous dire, ceci aura un impact dans le futur. Et c'est pour cela que nous sommes là.
Comment est-ce que vous vous mobilisez?
Toutes les infos sont sur Internet. Il y a aussi un code USSD au cas où vous ne savez pas où vous devez être ou avec qui vous devez être. J'adore le fait que les organisateurices aient pensé à chaque détail pour que le mouvement soit victorieux.
Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une protestation fugace ou du point de départ d'un long mouvement?
Notre génération aime la responsabilité. Vous nous avez promis ça et vous n'êtes pas en train de le faire. Pourquoi? Nous avons besoin de la questionner, votre responsabilité. Donc ce n'est sûrement pas quelque chose d'éphémère. Une fois qu'on en aura terminé avec ça, on s'attaquera à autre chose et on verra bien jusqu'où ça ira.
Début juillet, le mouvement Son Leader se poursuit donc pour réclamer justice pour les personnes assassinées et exiger la démission du président. À Nairobi, les écoles demeurent fermées et l'on vient déposer des dizaines de cercueils sur l'une des grandes avenues de la ville pour mettre la lumière sur les victimes de la répression. À l'extérieur de la capitale, l'autoroute vers Mombasa, seconde ville du pays, est paralysée par les barricades, tout comme celle qui circule entre Migori et Rongo. À Kisumu, la grande ville de l'Ouest, des milliers de personnes marchent encore autour de la résidence du gouverneur. Et ailleurs dans le pays, les clivages tribaux sont transcendés pour former des cortèges hétéroclites. Les manifestations poussent le président Ruto à limoger la quasi-intégralité de son gouvernement, chose inédite au Kenya depuis 2005, tout en demandant pardon pour l'arrogance de ses ministres et les démonstrations d'opulence. Il annonce des mesures d'économie au sein du gouvernement, supprime les offices des premières dames et réduit les dépenses de voyage des hauts fonctionnaires. Il signe également une loi pour remettre en place le bureau de la commission électorale, l'une des demandes principales du mouvement, annonce l'embauche de profs et de personnel soignant. Enfin, le 12 juillet, alors que des corps mutilés sont découverts à Nairobi, le chef de la police annonce sa démission. Pendant ce temps-là, le peuple ne lâche rien et continue de chanter « Ruto must go », « Ruto doit partir ». L'activiste Byron Ochieng clame à Africa News « Le président devrait savoir que ses jours sont comptés et qu'il devrait démissionner. Et nous, en tant que génération Z, nous ne céderons pas. Nous nous battrons jusqu'au bout. Il est temps pour nous de faire en sorte que ce pays soit géré conformément à la Constitution. Nous continuerons notre lutte tant que nos forces nous le permettront. » Reject your bill, reject your bill, reject your bill. Kabla independence tulikuwa chain. Sani kutufunga macho president kwa plane. Si tukizidi kwa maskini, nege ya prezi shuke chini. Kachaguo latinis. Wap, 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 wap. Ndo yo tear gas. Pass, 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 pass. Daily tear gas. Una preach most high na una higher. The church let you in, then you probably a minor. Another side note, maseo kiti SGR ni expensive na li uncomfortable as fuck. La dénonciation du régime politique s'accompagne de revendications anticoloniales et de slogans dirigés contre l'ingérence économique. À l'image du mot d'ordre, nous ne sommes pas les salopes du FMI. D'abord, la loi de finances qui vise clairement à augmenter les recettes fiscales sans faire payer les plus riches ni les investisseurs internationaux est considérée comme directement issue de l'oligarchie internationale. D'autre part, ceux et celles qui occupent la rue sont les enfants d'une génération qui a souffert des programmes d'ajustement structurel mis en place dans les années 90 sur demande déjà des institutions bancaires telles que le FMI. L'effet principal, à l'époque, a été d'appauvrir toute une génération en limitant son accès aux services publics de base. L'idée de reproduire aujourd'hui ce schéma, en particulier avec le projet de faire disparaître l'assurance maladie au profit d'un système plus onéreux et moins facile d'accès, ne fait consensus nulle part. À certains égards donc, la lutte actuelle apparaît à la fois comme une revanche et un renouveau générationnel. Protus Onyango, journaliste kényan, affirme dans le journal allemand Infosperber.
Les manifestations sont historiques pour le Kenya. Ce que cette jeune génération a réalisé, personne ne l'avait fait avant elle. Jusqu'à présent, les manifestations de l'opposition se déroulaient dans un seul endroit. Cette fois, plusieurs millions de personnes se sont mobilisées dans toutes les villes moyennes et grandes du pays. Les générations plus âgées sont également mécontentes de la corruption et elles disent aux jeunes générations de ne pas se laisser faire. Elles ont fait l'expérience de l'absence de réponse politique à leurs revendications. C'est pourquoi beaucoup sont fiers de leurs enfants. L'élite politique a pour la première fois été mise face à ses responsabilités. Les protestations vont changer fondamentalement la manière dont notre gouvernement fonctionne. Hier encore, des jeunes se sont rassemblés devant la maison du gouverneur de Nandi à 400 km de Nairobi. Ils lui ont demandé à quoi il avait consacré son budget et quelles personnes il avait embauchées.
Conscient de cela, le FMI déclarait en janvier dernier que malgré les troubles qui pourraient réapparaître contre l'augmentation du coût de la vie, le gouvernement kényan devait maintenir son engagement à imposer les réformes. Or, tout le monde a bien compris que l'économie du pays souffre de l'héritage colonial, avec la mise en place et l'entretien d'une agriculture d'exportation au profit des puissances occidentales. C'est d'ailleurs ce modèle qui aujourd'hui menace la sécurité alimentaire et provoque la dévastation écologique. Reject your bill, reject your bill, reject your bill. Reject your bill, reject your bill, reject your bill. Via Campesina se fait en outre le relais de la paysannerie kényane, elle aussi engagée dans la lutte, même si sa mobilisation est moins visible. Elle rappelle justement dans un rapport de terrain intitulé « La révolution paysanne au Kenya contre le FMI » la pression que l'institution fait peser sur l'agriculture du pays ces dernières années. La Kenyan Peasant League est notamment en passe de gagner juridiquement contre une loi qui tente d'imposer les OGM sous la pression des États-Unis. Les inondations dont le pays a souffert en avril sont directement imputables à la destruction de la forêt au profit de cette agriculture d'exportation dont les bénéfices ne retombent que sur les élites et les investisseurs étrangers. Loin de vouloir pallier au problème, Ruto a d'ailleurs suspendu récemment une loi qui interdisait l'exploitation de la forêt. Greenpeace avait réagi avec ces mots.
Au Kenya, les forêts abritent des espèces rares et menacées, et des millions de personnes dépendent de ces forêts pour leur subsistance, pour se nourrir et se soigner. Depuis que le gouvernement kényan a imposé l'interdiction de l'exploitation forestière il y a 6 ans, des progrès significatifs ont été réalisés dans la protection des forêts et dans la lutte contre la crise climatique. La levée de l'interdiction anéantira tout notre dur labeur, et elle ouvrira les vannes à l'exploitation forestière commerciale et illégale, uniquement motivée par le profit.
Et c'est aussi dans la manière de gérer les troubles sociaux que les critiques enflent, en particulier sur l'héritage que les systèmes policiers et judiciaires doivent à la colonisation, époque où le rôle de la police est de protéger les intérêts de l'administration coloniale et non de la population locale. Okaka Onyango écrit dans l'Ukombozi Review:
les racines de la militarisation de la police au Kenya, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, peuvent être replacées dans l'ère coloniale, lorsque les puissances étrangères se sont ruées sur le continent. Et l'exécution de ce projet colonial a laissé des cicatrices douloureuses et indélébiles sur notre société, particulièrement sur le système de justice criminelle qui nous a été imposé. La conséquence a été une effrayante déconnexion entre la police et les citoyens qu'elle est censée protéger et servir.
L'ouvrage de Rock Ajulu, Post-Colonial Kenya, The Rise of an Authoritarian and Predatory State, le Kenya post-colonial, émergence d'un État autoritaire et prédateur, étudie justement comment les 3 chefs d'État qui ont gouverné le Kenya depuis l'indépendance ont perpétué ces 2 éléments fondateurs du colonialisme, prédation sur les ressources naturelles et autoritarisme contre les populations locales à qui sont retirées ces ressources, sans oublier de diviser sur des bases ethniques afin de renforcer leur domination et l'accumulation de richesses en leur faveur. La contestation survient en outre au moment où le président a accepté d'envoyer 400 policiers sur l'île d'Haïti, ce qui est vécu par une partie des Kenyans et des Kenyanes comme un appui à l'impérialisme américain pour terroriser la population de l'île caribéenne. Comme le souligne le Black Agenda Report, cet accord est également ressenti comme un signe évident de complicité entre le gouvernement états-unien et le président kényan, par ailleurs invité récemment à la Maison-Blanche. Reject your bill, reject your bill, reject your bill. Or, la jeunesse est désormais largement majoritaire. Éduquée, diplômée, déterminée et dynamique, elle refuse d'être plus longtemps maintenue dans une domination néocoloniale qui lui refuse le développement. En outre, elle possède des outils de communication qui lui permettent de s'informer, d'échanger et parfois même de financer ou d'alimenter ses luttes via des moyens nouveaux. Dans cette perspective, il est intéressant de constater de quelle manière la contestation, avec les mêmes dénonciations et des revendications similaires, se propage très rapidement aux pays voisins. Comme l'écrit Romaric Godin dans Mediapart.
Le problème du Kenya est celui d'un modèle économique fondé sur une division internationale du travail qui alimente le maintien des bas salaires et sur une captation par les élites locales de l'essentiel de la croissance. La situation kényane est symptomatique d'une situation qui se dégrade dans beaucoup de pays du sud global. Les modèles de croissance semblent ne plus suffire à assurer le développement et les populations sont confrontées à des ajustements douloureux qui parfois entraînent des révoltes. La situation n'est pas sans rappeler aussi celle du Bangladesh où le modèle économique est également dans une impasse. Dans un contexte de stagnation de la croissance mondiale, ces pays très dépendants de leurs coûts bas se retrouvent sous la pression des marchés financiers et des élites captatrices.
À la mi-juillet, Ruto interdit les manifestations dans la capitale au prétexte que des groupes criminels ont prévu de les infiltrer. Ce sont pourtant ces hommes de main qui viennent régulièrement semer le trouble dans les marches. Certains se sont même plaints à la télévision de ne pas avoir été payés. C'est que toute la société semble emboîter le pas à la jeunesse. Profs, conducteurs et subeurs et employés des sociétés de covoiturage, camionneurs et camionneuses, productrices de café, un nombre croissant de professions rejoint la lutte pour une ou plusieurs journées. Les salariés des usines de la périphérie de Nairobi bloquent des routes régulièrement. Or, bien que la Cour suprême ait demandé au gouvernement de ne pas avoir recours à l'armée, les militaires ne rentrent pas dans leurs casernes. Des policiers en civil et armés de fusils mitrailleurs pourchassent et arrêtent des protestataires en les chargeant dans des pick-up sans que nul ne puisse attester d'où ils seront emmenés. Peu à peu, les forces de sécurité répriment tout rassemblement, empêchent les foules de s'amasser, et ce jusqu'au 8 août, où une mobilisation nationale avait été décrétée. Ce jour-là, tout rassemblement est attaqué et 174 personnes sont arrêtées à travers le pays. Alors, face au niveau de répression qui s'oppose à elle, quelle perspective de victoire cette jeunesse peut espérer ? Au Kenya, non seulement la loi de finances a été annulée par le président, mais elle l'a poussé à quelques concessions, à défaut de pouvoir assez l'inquiéter pour qu'il démissionne. Et le 2 août, une bonne surprise est venue de la Cour suprême, qui annonce sa décision d'annuler la loi de finances de l'année passée, celle qui avait été votée en juillet 2023. Constatant des manquements dans le processus législatif et jugeant que la loi est profondément défectueuse et par conséquent anticonstitutionnelle, les juges annulent la loi et l'ensemble des taxes qui en découlaient. L'espoir est donc permis à cette jeunesse, qui certes paye le prix fort, mais est peut-être en train de transformer son pays et distille l'espoir au peuple voisin et à travers le monde. Pour terminer, nous citons encore Djukiki Tsezoa.
La rage, alimentée par la douleur et la déception provoquées par les gouvernements néocoloniaux, a explosé. La conscience politique de la jeunesse, qui semblait pourtant massivement apolitique, s'est grandement élevée. Cela ne peut être stoppé, par quoi que ce soit ou qui que ce soit, excepté par l'accomplissement de toutes leurs demandes et la mise en place d'un ordre social juste au Kenya. Le pouvoir arrogant a été débordé par la jeunesse sur plusieurs fronts, de façon organique, sans porte-parole, ni leader, ni tribu. Un nouvel ordre politique émerge au Kenya, comme ailleurs en Afrique. Tout doit tomber, tout doit changer.
C'était le premier épisode de la saison 5 de l'Actu des Oubliés. Merci de l'avoir suivi. Au doublage, Goël, Maël, Geneviève et Pierre. Nos sources en anglais, Lukumbazu Review, la Review of African Political Economy, TheElephant.info, AfricasCountry.com, Associated Press, et en français, Afrique 21 et Mediapart. En termes de musique, vous avez entendu Sauti Ya Wayonje de Iyani, Occupy the Streets de Trio Mio et Reject Your Bill de Sabiwu. Trois chansons écrites par et pour la lutte de ces derniers mois au Kenya. Et en ce moment, vous écoutez Anguka Nayo de Wagadiske, hymne 2024 de cette génération Z qui a fait irruption dans les rues. Pour continuer de nous suivre ou avoir accès aux épisodes précédents, rendez-vous sur notre blog. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou à en parler autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kwa una party na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati anguka nayo.